Cependant, mon père, pour aller au-devant des critiques que nous aurions pu faire sur notre invité, dit à maman
« J'avoue que le père Norpois a été un peu poncif, comme vous dites. Quand il a dit qu'il aurait été peu séant de poser une question au comte de Paris, j'ai eu peur que vous ne vous mettiez à rire. »
« Mais pas du tout, répondit ma mère. J'aime beaucoup qu'un homme de cette valeur et de cet âge ait gardé cette sorte de naïveté qui ne prouve qu'un fond d'honnêteté et de bonne éducation. »
« Je crois bien. Cela ne l'empêche pas d'être fin et intelligent. Je le sais, moi, qui le vois à la commission tout autre qu'il n'est ici. »
s'écria mon père, heureux de voir que maman appréciait M. de Norpois, et voulant lui persuader qu'il était encore supérieur à ce qu'elle croyait, parce que la cordialité surfait avec autant de plaisir qu'en prend la taquinerie à déprécier.
« Comment a-t-il donc dit « Avec les princes, on ne sait jamais ?»«
Mais oui, comme tu dis là. » »«
J'avais remarqué, c'est très fin. On voit qu'il a une profonde expérience de la vie. »
C'est extraordinaire qu'il ait dîné chez les Swann et qu'il y ait trouvé en somme des gens réguliers, des fonctionnaires. Où est-ce que Madame Swann a pu aller pêcher tout ce monde-là?
As-tu remarqué avec quelle malice il a fait cette réflexion? C'est une maison où il va surtout des hommes? Et tous deux cherchaient à reproduire la manière dont M. de Norpois avait dit cette phrase, comme ils auraient fait pour quelque intonation de Bressan ou de Tiron dans L'Aventurière ou dans Le Gendre de M. Poirier. Mais de tous ces mots, le plus goûté le fut par Françoise, qui, encore plusieurs années après, ne pouvait pas tenir son sérieux si on lui rappelait qu'elle avait été traitée par l'ambassadeur de « chef de premier ordre », ce que ma mère était allée lui transmettre comme un ministre de la guerre, les félicitations d'un souverain de passage après la revue. Je l'avais d'ailleurs précédée à la cuisine, car j'avais fait promettre à Françoise, pacifiste mais cruelle, qu'elle ne ferait pas trop souffrir le lapin qu'elle avait à tuer, et je n'avais pas eu de nouvelles de cette mort. Françoise m'assura qu'elle s'était passée le mieux du monde et très rapidement.
« J'ai jamais vu une bête comme ça. Elle est morte sans dire seulement une parole. Vous auriez dit qu'elle était muette. »
Peu au courant du langage des bêtes, j'alléguais que le lapin ne criait peut-être pas comme le poulet.
« Attendez un peu voir, me dit Françoise indignée de mon ignorance, si les lapins ne crient pas autant comme les poulets. Ils ont même la voix bien plus forte. »
Françoise accepta les compliments de M. de Norpois avec la fière simplicité, le regard joyeux et, fût-ce momentanément, intelligent d'un artiste à qui on parle de son art. Ma mère l'avait envoyé autrefois dans certains grands restaurants voir comment on y faisait la cuisine. J'eus ce soir-là, à l'entendre traiter les plus célèbres de gargotes, le même plaisir qu'autrefois à apprendre pour les artistes dramatiques que la hiérarchie de leur mérite n'était pas la même que celle de leur réputation. « L'ambassadeur, lui dit ma mère, assure que nulle part on ne mange de bœuf froid et de soufflé comme les vôtres. » Françoise, avec un air de modestie et de rendre hommage à la vérité, l'accorda, sans être d'ailleurs impressionnée par le titre d'ambassadeur. Elle disait de M. de Norpois, avec l'amabilité due à quelqu'un qu'il avait prise pour un chef, « C'est un bon vieux comme moi. » Elle avait bien cherché à l'apercevoir quand il était arrivé, mais, sachant que maman détestait qu'on fût derrière les portes ou aux fenêtres, et pensant qu'elle saurait par les autres domestiques ou par les concierges qu'elle avait fait le guet, car Françoise ne voyait partout que jalousie et racontage qui jouaient dans son imagination le même rôle permanent et funeste que, pour telles autres personnes, les intrigues des jésuites ou des juifs. Elle s'était contentée de regarder par la croisée de la cuisine pour ne pas avoir des raisons avec madame, et sur l'aspect sommaire de M. de Norpois, elle avait cru M. le Grandin, à cause de son agileté, et bien qu'il n'y eût pas un trait commun entre eux. « Mais enfin, lui demanda ma mère, comment expliquez-vous que personne ne fasse la gelée aussi bien que vous, quand vous le voulez ?»«
Je ne sais pas d'où ce que ça devient, » répondit Françoise.
qui n'établissait pas une démarcation bien nette entre le verbe « venir », au moins pris dans certaines acceptions, et le verbe « devenir ». Elle disait vrai, du reste, en partie, et n'était pas beaucoup plus capable, ou désireuse, de dévoiler le mystère qui faisait la supériorité de ses gelées ou de ses crèmes, qu'une grande élégante pour ses toilettes ou une grande cantatrice pour son chant. Leurs explications ne nous disent pas grand-chose. Il en était de même des recettes de notre cuisinière.
« Ils font cuire trop à la va-vite, »
répondit-elle en parlant des grands restaurateurs.
« Et puis pas tout ensemble. Il faut que le bœuf, il devienne comme une éponge, alors il boit tout le jus jusqu'au fond. Pourtant, il y en avait un de ces cafés où il me semble qu'on savait bien un peu faire la cuisine. Je ne dis pas que c'était tout à fait ma gelée, mais c'était fait bien doucement et les soufflés, ils avaient bien de la crème. »
« Est-ce Henri ?»
demanda mon père qui nous avait rejoints et appréciait beaucoup le restaurant de la place Gaillon où il avait à date fixe des repas de corps.
« Oh non !» dit Françoise avec une douceur qui cachait un profond dédain.
« Je parlais d'un petit restaurant. Chez cet Henri, c'est bon, bien sûr, mais ce n'est pas un restaurant, c'est plutôt un bouillon. »
« Weber. »«
Oh non, monsieur, je voulais dire un bon restaurant. Weber, c'est dans la rue Royale, ce n'est pas un restaurant, c'est une brasserie. Je ne sais pas si ce qu'il vous donne est servi. Je crois qu'ils n'ont même pas de nappe. Ils posent cela comme cela sur la table. Va comme je te pousse. »
« Sirop ?»
Françoise sourit.
« Oh là, je crois qu'en fait de cuisine, il y a surtout des dames du monde. »
Monde signifiait pour Françoise demi-monde.
« Dame, il faut ça pour la jeunesse. »
Nous nous apercevions qu'avec son air de simplicité, Françoise était pour les cuisiniers célèbres une plus terrible camarade que ne peut l'être l'actrice la plus envieuse et la plus infatuée. Nous sentîmes pourtant qu'elle avait un sentiment juste de son art et le respect des traditions, car elle ajouta
« Non, je veux dire un restaurant où c'est qu'il y avait l'air d'avoir une bien bonne petite cuisine bourgeoise. C'est une maison encore assez conséquente. Ça travaillait beaucoup. Ah, on en ramassait des sous là-dedans. »
Françoise, économe, comptait par sous, non par louis, comme les décavés.
« Madame connaît bien là-bas à droite, sur les grands boulevards, un peu en arrière. »
Le restaurant dont elle parlait, avec cette équité mêlée d'orgueil et de bonhomie, c'était le Café Anglais. Quand vint le 1er janvier, je fis d'abord des visites de famille avec maman qui, pour ne pas me fatiguer, les avait d'avance, à l'aide d'un itinéraire tracé par mon père, classé par quartier plutôt que selon le degré exact de la parenté. Mais à peine entrée dans le salon d'une cousine assez éloignée, qui avait comme raison de passer d'abord que sa demeure ne le fût pas de la nôtre, ma mère était épouvantée en voyant, ses marrons glacés ou déguisés à la main, le meilleur ami du plus susceptible de mes oncles, auquel il allait rapporter que nous n'avions pas commencé notre tournée par lui. Cet oncle serait sûrement blessé. Il n'eût trouvé que naturel que nous allassions de la Madeleine au Jardin des Plantes où il habitait, avant de nous arrêter à Saint-Augustin pour repartir rue de l'école de médecine. Les visites finies, ma grand-mère dispensait que nous en fissions une chez elle comme nous y dînions ce jour-là, je courus jusqu'aux Champs-Élysées porter à notre marchande pour qu'elle la remît à la personne qui venait plusieurs fois par semaine de chez les Swann y chercher du pain d'épices, la lettre que, dès le jour où mon ami m'avait fait tant de peine, j'avais décidé de lui envoyer au Nouvel An, et dans laquelle je lui disais que notre amitié ancienne disparaissait avec l'année finie, que j'oubliais mes griefs et mes déceptions, et qu'à partir du 1er janvier, c'était une amitié neuve que nous allions bâtir, si solide que rien ne la détruirait, si merveilleuse que j'espérais que Gilberte mettrait quelque coquetterie à lui garder toute sa beauté et à m'avertir à temps, comme je promettais de le faire moi-même, aussitôt que surviendrait le moindre péril qui pourrait l'endommager. En rentrant, Françoise me fit arrêter au coin de la rue Royale devant un étalage en plein vent où elle choisit,
pour ses propres étrennes, des photographies de Pie-Neuf et de Raspail et où, pour ma part, j'en achetais une de la Berma. Les innombrables admirations qu'excitait l'artiste donnaient quelque chose d'un peu pauvre à ce visage unique qu'elle avait pour y répondre, immuable et précaire comme ce vêtement des personnes qui n'en ont pas de rechange, et où elle ne pouvait exhiber toujours que le petit pli au-dessus de la lèvre supérieure, le relèvement des sourcils, quelques autres particularités physiques, toujours les mêmes, qui, en somme, étaient à la merci d'une brûlure ou d'un choc. Ce visage, d'ailleurs, ne m'eût pas à lui seul semblé beau, mais il me donnait l'idée et par conséquent l'envie de l'embrasser à cause de tous les baisers qu'il avait dû supporter et que, du fond de la carte-album, il semblait appeler encore par ce regard coquettement tendre et ce sourire artificieusement ingénu. Car la Berma devait ressentir effectivement pour bien des jeunes hommes ces désirs qu'elle avouait sous le couvert du personnage de Phèdre, et dont tout, même le prestige de son nom qui ajoutait à sa beauté et prorogeait sa jeunesse, devait lui rendre l'assouvissement si facile. Le soir tombait, je m'arrêtais devant une colonne de théâtre où était affichée la représentation que la Berma donnait pour le 1er janvier. Il soufflait un vent humide et doux. C'était un temps que je connaissais. J'eus la sensation et le pressentiment que le jour de l'an n'était pas un jour différent des autres, qu'il n'était pas le premier d'un monde nouveau où j'aurais pu, avec une chance encore intacte, refaire la connaissance de Gilberte comme au temps de la création, comme s'il n'existait pas encore de passé, comme si eussent été anéantis, avec les indices qu'on aurait pu en tirer pour l'avenir, les déceptions qu'elle m'avait parfois causées. Un nouveau monde où rien ne subsista de l'ancien, rien qu'une chose, mon désir que Gilberte m'aimât. Je compris que si mon cœur souhaitait ce renouvellement autour de lui d'un univers qui ne l'avait pas satisfait, c'est que lui, mon cœur, n'avait pas changé. Et je me dis qu'il n'y avait pas de raison pour que celui de Gilberte eût changé davantage. Je sentis que cette nouvelle amitié c'était la même, comme ne sont pas séparées des autres par un fossé les années nouvelles que notre désir, sans pouvoir les atteindre et les modifier, recouvre à leur insu d'un nom différent. J'avais beau dédier celle-ci à Gilberte et, comme on superpose une religion aux lois aveugles de la nature, essayer d'imprimer au jour de l'an l'idée particulière que je m'étais faite de lui, c'était en vain. Je sentais qu'il ne savait pas qu'on l'appela le jour de l'an, qu'il finissait dans le crépuscule d'une façon qui ne m'était pas nouvelle. Dans le vent doux qui soufflait autour de la colonne d'affiches, j'avais reconnu, j'avais senti reparaître la matière éternelle et commune, l'humidité familière, l'ignorante fluidité des anciens jours. Je revins à la maison. Je venais de vivre le 1er janvier des hommes vieux qui diffèrent ce jour-là des jeunes, non parce qu'on ne leur donne plus d'étrennes, mais parce qu'ils ne croient plus au nouvel an. Des étrennes, j'en avais reçu, mais non pas les seules qui m'eussent fait plaisir et qui eussent été un mot de Gilberte. J'étais pourtant jeune encore tout de même, puisque j'avais pu lui en écrire un par lequel j'espérais, en lui disant les rêves solitaires de ma tendresse, en éveiller de pareil en elle. La tristesse des hommes qui ont vieilli, c'est de ne pas même songer à écrire de telles lettres dont ils ont appris l'inefficacité. Quand je fus couchée, les bruits de la rue, qui se prolongeaient plus tard ce soir de fête, me tinrent éveillée. Je pensais à tous les gens qui finiraient leur nuit dans les plaisirs, à l'amant, à la troupe de débauchés peut-être qui avait dû aller chercher la Berma à la fin de cette représentation que j'avais vue annoncer pour le soir. Je ne pouvais même pas, pour calmer l'agitation que cette idée faisait naître en moi dans cette nuit d'insomnie, me dire que la Berma ne pensait peut-être pas à l'amour, puisque les vers qu'elle récitait, qu'elle avait longuement étudiés, lui rappelaient à tout moment qu'il est délicieux, comme elle le savait d'ailleurs, si bien qu'elle en faisait apparaître les troubles bien connus, mais douée d'une violence nouvelle et d'une douceur insoupçonnée, à des spectateurs émerveillés dont chacun pourtant les avait ressentis par soi-même. Je rallumai ma bougie éteinte pour regarder encore une fois son visage. À la pensée qu'il était sans doute en ce moment caressé par ces hommes, que je ne pouvais empêcher de donner à la Berma et de recevoir d'elle des joies surhumaines et vagues, j'éprouvais un émoi plus cruel qu'il n'était voluptueux, une nostalgie que vint aggraver le son du cor, comme on l'entend la nuit de la mi-carême et souvent des autres fêtes, et qui, parce qu'il est alors sans poésie, est plus triste sortant d'un mas troqué que le soir au fond des bois. À ce moment-là, un mot de Gilberte n'eût peut-être pas été ce qu'il m'eût fallu. Nos désirs vont s'interférant et dans la confusion de l'existence, il est rare qu'un bonheur vienne justement se poser sur le désir qu'il avait réclamé. Je continuais à aller aux Champs-Élysées les jours de beau temps, par des rues dont les maisons élégantes et roses baignaient, parce que c'était le moment de la grande vogue des expositions d'aquarellistes, dans un ciel mobile et léger. Je mentirais en disant que dans ces temps-là, les palais de Gabriel m'aient paru d'une plus grande beauté, ni même d'une autre époque que les hôtels avoisinants. Je trouvais plus de style et aurais cru plus d'ancienneté, sinon au palais de l'industrie, du moins à celui du Trocadéro. Plongée dans un sommeil agité, mon adolescence enveloppait d'un même rêve tout le quartier où elle le promenait, et je n'avais jamais songé qu'il pût y avoir un édifice du XVIIIe siècle dans la rue Royale, de même que j'aurais été étonnée si j'avais appris que la porte Saint-Martin et la porte Saint-Denis, chefs-d'œuvre du temps de Louis XIV, n'étaient pas contemporains des immeubles les plus récents de ces arrondissements sordides. Une seule fois, un des palais de Gabriel me fit arrêter longuement. C'est que la nuit étant venue, ses colonnes dématérialisées par le clair de lune avaient l'air découpées dans du carton et, me rappelant un décor de l'opérette Orphée aux Enfers, me donnait pour la première fois une impression de beauté. Gilberte, cependant, ne revenait toujours pas aux Champs-Élysées. Et pourtant, j'aurais eu besoin de la voir, car je ne me rappelais même pas sa figure. La manière chercheuse, anxieuse, exigeante que nous avons de regarder la personne que nous aimons, notre attente de la parole qui nous donnera ou nous ôtera l'espoir d'un rendez-vous pour le lendemain, et jusqu'à ce que cette parole soit dite, notre imagination alternative, sinon simultanée, de la joie et du désespoir, tout cela rend notre attention en face de l'être aimé trop tremblante pour qu'elle puisse obtenir de lui une image bien nette. Peut-être aussi cette activité de tous les sens à la fois, et qui essaye de connaître avec les regards seuls ce qui est au-delà d'eux, est-elle trop indulgente aux mille formes, à toutes les saveurs, aux mouvements de la personne vivante que d'habitude, quand nous n'aimons pas, nous immobilisons. Le modèle chéri, au contraire, bouge. On n'en a jamais que des photographies manquées. Je ne savais vraiment plus comment étaient faits les traits de Gilberte, sauf dans les moments divins où elle les dépliait pour moi. Je ne me rappelais que son sourire. Et ne pouvant revoir ce visage bien-aimé, quelque effort que je fisse pour m'en souvenir, je m'irritais de trouver, dessiné dans ma mémoire avec une exactitude définitive, les visages inutiles et frappants de l'homme des chevaux de bois et de la marchande de sucre d'orge. Ainsi, ceux qui ont perdu un être aimé qu'ils ne revoient jamais en dormant s'exaspèrent de rencontrer sans cesse dans leurs rêves tant de gens insupportables et que c'est déjà trop d'avoir connu dans l'état de veille. Dans leur impuissance à se représenter l'objet de leur douleur, ils s'accusent presque de n'avoir pas de douleur. Et moi, je n'étais pas loin de croire que, ne pouvant me rappeler les traits de Gilberte, je l'avais oubliée elle-même, je ne l'aimais plus. Enfin, elle revint jouer presque tous les jours, mettant devant moi de nouvelles choses à désirer, à lui demander pour le lendemain, faisant bien chaque jour en ce sens-là de ma tendresse une tendresse nouvelle. Mais une chose changea une fois de plus et brusquement la façon dont tous les après-midi, vers 2 heures, se posait le problème de mon amour. Monsieur Swann avait-il surpris la lettre que j'avais écrite à sa fille ? où Gilberte ne faisait-elle que m'avouer longtemps après, et afin que je fusse plus prudent, un état de choses déjà ancien. Comme je lui disais combien j'admirais son père et sa mère, elle prit cet air vague, plein de réticences et de secrets qu'elle avait quand on lui parlait de ce qu'elle avait à faire, de ses courses et de ses visites, et tout d'un coup finit par me dire « Vous savez, il ne vous gobe pas !» Et glissante comme une ondine, elle était ainsi, elle éclata de rire. Souvent son rire en désaccord avec ses paroles semblait, comme fait la musique, décrire dans un autre plan une surface invisible. Monsieur et Madame Swann ne demandaient pas à Gilberte de cesser de jouer avec moi, mais eussent autant aimé, pensait-elle, que cela n'eût pas commencé. Ils ne voyaient pas mes relations avec elle d'un œil favorable, ne me croyaient pas d'une grande moralité, et s'imaginaient que je ne pouvais exercer sur leur fille qu'une mauvaise influence. Ce genre de jeunes gens peu scrupuleux auxquels Swann me croyait ressembler, je les représentais comme détestant les parents de la jeune fille qu'ils aiment, les flattant quand ils sont là, mais se moquant d'eux avec elle, la poussant à leur désobéir et, quand ils ont une fois conquis leur fille, les privant même de la voir. À ces traits, qui ne sont jamais ceux sous lesquels le plus grand misérable se voit lui-même, avec quelle violence mon cœur opposait ces sentiments dont il était animé à l'égard de Swann, si passionné au contraire que je ne doutais pas que, s'il les eût soupçonnés, il ne se fût repenti de son jugement à mon égard comme d'une erreur judiciaire. Tout ce que je ressentais pour lui, j'osais le lui écrire dans une longue lettre que je confiai à Gilberte en la priant de la lui remettre. Elle y consentit. Hélas, il voyait donc en moi un plus grand imposteur encore que je ne pensais. Ces sentiments que j'avais cru peindre en 16 pages avec tant de vérité, il en avait donc douté. La lettre que je lui écrivis, aussi ardente et aussi sincère que les paroles que j'avais dites à M. de Norpois, n'eut pas plus de succès. Gilberte me raconta le lendemain, après m'avoir emmené à l'écart derrière un massif de lauriers, dans une petite allée où nous nous assîmes chacun sur une chaise, qu'en lisant la lettre qu'elle me rapportait, son père avait haussé les épaules en disant « Tout cela ne signifie rien, cela ne fait que prouver combien j'ai raison. » Moi qui savais la pureté de mes intentions, la bonté de mon âme, j'étais indignée que mes paroles n'eussent même pas effleuré l'absurde erreur de Swann. Car que ce fût une erreur, je n'en doutais pas alors. Je sentais que j'avais décrit avec tant d'exactitude certaines caractéristiques irrécusables de mes sentiments généreux que, pour que d'après elle, Swann ne les eût pas aussitôt reconstitués, ne fût pas venu me demander pardon et avouer qu'il s'était trompé, il fallait que ces nobles sentiments, il ne les eût lui-même jamais ressentis, ce qui devait le rendre incapable de les comprendre chez les autres. Or, peut-être simplement Swann savait-il que la générosité n'est souvent que l'aspect intérieur que prennent nos sentiments égoïstes quand nous ne les avons pas encore nommés et classés. Peut-être avait-il reconnu dans la sympathie que je lui exprimais un simple effet et une confirmation enthousiaste de mon amour pour Gilberte par lequel, et non par ma vénération secondaire pour lui, serait fatalement dans la suite diriger mes actes. Je ne pouvais partager ses prévisions car je n'avais pas réussi à abstraire de moi-même mon amour, à le faire entrer dans la généralité des autres et à en supputer expérimentalement les conséquences. J'étais désespérée. Je dus quitter un instant Gilberte, Françoise m'ayant appelée. Il me fallut l'accompagner dans un petit pavillon treillissé de verre assez semblable au bureau d'octroi désaffecté du Vieux Paris et dans lequel était depuis peu installé ce qu'on appelle en Angleterre un lavabo et en France, par une anglomanie mal informée, des water closets. Les murs humides et anciens de l'entrée où je restais à attendre Françoise dégageaient une fraîche odeur de renfermé qui, m'allégeant aussitôt des soucis que venaient de faire naître en moi les paroles de Swann rapportées par Gilberte, me pénétra d'un plaisir non pas de la même espèce que les autres, lesquels nous laissent plus instables, incapable de les retenir, de les posséder, mais au contraire d'un plaisir consistant auquel je pouvais m'étayer, délicieux, paisible, riche d'une vérité durable, inexpliquée et certaine. J'aurais voulu, comme autrefois dans mes promenades du côté de Guermantes, essayer de pénétrer le charme de cette impression qui m'avait saisie et rester immobile à interroger cette émanation vieillotte qui me proposait non de jouir du plaisir qu'elle ne me donnait que par surcroît, mais de descendre dans la réalité qu'elle ne m'avait pas dévoilée. Mais la tenancière de l'établissement, vieille dame à joues plâtrées et à perruque rousse, se mit à me parler. Françoise la croyait tout à fait bien chez elle. Sa demoiselle avait épousé ce que Françoise appelait un jeune homme de famille, par conséquent quelqu'un qu'elle trouvait plus différent d'un ouvrier que Saint-Simon, un duc, d'un homme sorti de la lie du peuple. Sans doute la tenancière, avant de l'être, avait eu des revers. Mais Françoise assurait qu'elle était marquise et appartenait à la famille de Saint-Féréol. Cette marquise me conseilla de ne pas rester au frais et m'ouvrit même un cabinet en me disant « Vous ne voulez pas entrer ? En voici un tout propre, pour vous ce sera gratis. » Elle le faisait peut-être seulement comme les demoiselles de chez Gouache, quand nous venions faire une commande, m'offraient un des bonbons qu'elles avaient sur le comptoir sous des cloches de verre et que maman me défendait, hélas, d'accepter. Peut-être aussi, moins innocemment, comme telle vieille fleuriste par qui maman faisait remplir ses jardinières et qui me donnait une rose en roulant des yeux doux. En tout cas, si la marquise avait du goût pour les jeunes garçons, en leur ouvrant la porte hypogéenne de ces cubes de pierre où les hommes sont accroupis comme des sphinx, elle devait chercher dans ses générosités moins l'espérance de les corrompre que le plaisir qu'on éprouve à se montrer vainement prodigue envers ce qu'on aime, car je n'ai jamais vu auprès d'elle d'autres visiteurs qu'un vieux garde forestier du jardin. Un instant après, je prenais congé de la marquise, accompagnée de Françoise, et je quittais cette dernière pour retourner auprès de Gilberte. Je l'aperçus tout de suite, sur une chaise, derrière le massif de laurier. C'était pour ne pas être vue de ses amis. On jouait à cache-cache. J'allais m'asseoir à côté d'elle. Elle avait une toque plate qui descendait assez bas sur ses yeux, leur donnant ce même regard en dessous, rêveur et fourbe, que je lui avais vu la première fois à Combray. Je lui demandais s'il n'y avait pas moyen que j'eusse une explication verbale avec son père. Gilberte me dit qu'elle la lui avait proposée, mais qu'il la jugeait inutile. « Tenez, ajouta-t-elle, ne me laissez pas votre lettre. Il faut rejoindre les autres puisqu'ils ne m'ont pas trouvée. » Si Swann était arrivé alors, avant même que je l'eusse reprise, cette lettre, de la sincérité de laquelle je trouvais qu'il avait été si insensé de ne pas s'être laissé persuader, peut-être aurait-il vu que c'était lui qui avait raison. Car en m'approchant de Gilberte, qui, renversée sur sa chaise, me disait de prendre la lettre et ne me l'attendait pas, je me sentis si attirée par son corps que je lui dis « Voyons, empêchez-moi de l'attraper, nous allons voir qui sera le plus fort. » Elle l'a mis dans son dos. Je passai mes mains derrière son cou, en soulevant les nattes de cheveux qu'elle portait sur les épaules, soit que ce fût encore de son âge, soit que sa mère voulût la faire paraître plus longtemps enfant, afin de se rajeunir elle-même. Nous luttions, arc-boutés. Je tâchais de la tirer, elle résistait. Ses pommettes enflammées par l'effort étaient rouges et rondes comme des cerises. Elle riait comme si je l'eusse chatouillée. Je la tenais serrée entre mes jambes comme un arbuste après lequel j'aurais voulu grimper et, au milieu de la gymnastique que je faisais, sans qu'en fût à peine augmenté l'essoufflement que me donnait l'exercice musculaire et l'ardeur du jeu, je répandis, comme quelques gouttes de sueur arrachées par l'effort, mon plaisir auquel je ne pus pas même m'attarder le temps d'en connaître le goût. Aussitôt je pris la lettre. Alors Gilberte me dit avec bonté « Vous savez, si vous voulez, nous pouvons lutter encore un peu. » Peut-être avait-elle obscurément senti que mon jeu avait un autre objet que celui que j'avais avoué. Mais n'avait-elle pas su remarquer que je l'avais atteint? Et moi qui craignais qu'elle s'en fût aperçue, et un certain mouvement rétractile et contenu de pudeur offensée qu'elle eut un instant après me donna à penser que je n'avais pas eu tort de le craindre, j'acceptais de lutter encore, de peur qu'elle pût croire que je ne m'étais pas proposé d'autre but que celui après quoi je n'avais plus envie que de rester tranquille auprès d'elle. En rentrant, j'aperçus, je me rappelais brusquement l'image cachée jusque-là, dont m'avait approché, sans me la laisser voir ni reconnaître, le frais sentant presque la suie du pavillon treillagé. Cette image était celle de la petite pièce de mon oncle Adolphe à Combray, laquelle exhalait en effet le même parfum d'humidité. Mais je ne pus comprendre, et je remis à plus tard de chercher pourquoi le rappel d'une image si insignifiante m'avait donné une telle félicité. En attendant, il me sembla que je méritais vraiment le dédain de M. de Norpois. J'avais préféré jusqu'ici à tous les écrivains celui qu'il appelait un simple joueur de flûte, et une véritable exaltation m'avait été communiquée, non par quelque idée importante, mais par une odeur de moisie.